VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 octobre 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, au Kenya, de violents affrontements ont entaché l'élection présidentielle boycottée par l'opposition. Au moins 3 personnes sont décédées. En Centrafrique, Antonio Guterres appelle tous les combattants à déposer les armes. Nikki Haley est en RDC, la représentante des États-Unis à l'ONU, a quitté Goma pour Kinshasa. En Espagne, l'incertitude demeure sur l'avenir de la Catalogne. Carles Puigdemont n'a pas annoncé d'élection anticipée. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Dili Dico pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Les Kenyans ont été de nouveau aux urnes pour élire leur président. Quelque 19,6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Il n'y a pas eu la mobilisation que lors du 8 août. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Sauf surprise majeure, le président sortant Uhuru Kenyatta devrait être réélu face à 6 autres candidats. Toutefois, ce n'était pas l'engouement contrairement aux longues files d'attente le 8 août. Raila Odinga, le principal opposant, a appelé au boycott. Dans les fiefs de l'opposition, des sites de vote sont restés fermés, le matériel électoral n'a pas pu être acheminé et les agents électoraux ne sont pas venus. À Kisumu, les manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus avant d'être dispersés par la police. Un manifestant a été tué par balle et d'autres blessés. Des échauffourées ont eu lieu dans des bidonvilles de Nairobi et dans d'autres villes de l'Ouest. Le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a annoncé le report du scrutin au samedi 28 dans 4 bastions de l'opposition. Le gouverneur de Kisumu, Enyang Nyong'o, une figure de l'opposition, a tout de suite rejeté ce vote annoncé pour samedi et a déclaré un deuil d'une semaine.
Le ministre de la Culture burkinabé Tahirou Barry a démissionné. L'information a été donnée à ses collaborateurs au cours d'une réunion ce jeudi. Dans une déclaration virulente, l'ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2015 exprime sa déception profonde sur plusieurs points, dont notamment le chômage des jeunes, la situation économique et la gestion de la crise sécuritaire du Burkina Faso. Au Mali, 3 casques bleus de l'ONU ont été tués et 2 blessés lorsque leur véhicule a heurté une mine ou un engin explosif improvisé dans le nord du pays. Le véhicule escortait un convoi logistique sur l'axe Tesalit-Agelok au nord de Kidal, a précisé la MINUSMA, qui indique que le bilan est provisoire. Toujours au Mali, l'état-major des armées indique aujourd'hui qu'un groupe armé terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique a été mis hors de combat et 15 djihadistes tués par l'armée française dans la nuit de lundi à mardi dans le nord du pays. Et puis le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste née de la fusion de plusieurs groupes du Sahel, a revendiqué l'attaque ayant tué 2 soldats maliens dans le nord du Mali. 8 soldats au moins ont été tués dans un raid du groupe islamiste Boko Haram sur un camp militaire et un village dans le nord-est du Nigeria. L'attaque s'est produite mardi dans un village de l'état du Yobe. En Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Mohamed, jeune blogueur, condamné à mort pour apostasie, pour un article sur Internet jugé blasphématoire et en détention depuis près de 4 ans, sera rejugé en appel en novembre. La peine capitale n'a plus été appliquée en Mauritanie depuis 1987. Cette affaire est le premier cas de condamnation à mort pour apostasie dans le pays. Antonio Guterres, en Centrafrique, après avoir pris part à une réunion sur le programme du désarmement, le secrétaire général de l'ONU a rencontré des membres de la société civile et des partis politiques. Freeman Sipila.
À la présidence de la République, Antonio Guterres était aux côtés de Faustin Archange-Touadéra pour parler du processus de désarmement et de réintégration en cours. Le secrétaire général de l'ONU a lancé 3 appels.
Le premier aux groupes armés pour qu'ils désarment, pour qu'ils acceptent de participer à la vie politique du pays. Un deuxième appel aux leaders politiques, communautaires et religieux pour une véritable réconciliation nationale. Et finalement, un appui à la communauté internationale. On ne peut pas laisser les Centrafricains à l'abandon. Il faut que tout le monde se mobilise pour aider ce pays à bâtir un futur que les Centrafricains méritent et qu'il faut absolument garantir.
Après le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument des martyrs en mémoire des victimes de la crise, M. Guterres a rencontré les représentants de l'Union africaine, de la société civile et des partis politiques. Anissé Georges Dologuilé, chef de file de l'opposition.
À peu près tous nous disons les mêmes choses, c'est-à-dire des forces onusiennes plus offensives, des forces non pas de maintien de la paix mais d'imposition de la paix, et que les groupes armés soient traqués, que ceux qui sont des grands criminels soient jugés et qu'il n'y ait pas d'impunité.
Freeman Sipila Bongui, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rencontrera demain vendredi le président camerounais Paul Biya lors d'une escale à Yaoundé pour notamment analyser l'évolution de la crise dans les régions anglophones. Arrivée depuis hier mercredi en RDC, la représentante des États-Unis à l'ONU a effectué une courte visite dans le Nord Kivu. Elle a visité un camp des déplacés internes à l'ouest de la ville de Goma avant de s'envoler pour Kinshasa, la capitale. On fait le point avec Charlie Kasereka à Goma.
C'est en fin de la matinée que Nikki Haley est atterrée à Goma à provenance de Kinshasa. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU est allée directement vers Kichanga à plus de 80 km à l'ouest de Goma dans les territoires de Masisi, zone prioritaire du programme de stabilisation régorgeant plusieurs camps de déplacés internes suite au conflit interethnique entre les groupes armés. Des retours à Goma, la coalition des partis de l'opposition ainsi que les jeunes du mouvement citoyen Lucha ont voulu donner à mes propres leurs mémoires à la diplomate américaine, mais ils en ont été empêchés et brutalisés par la police de la mission onisienne en RDC. Nikki Haley n'a fait aucune déclaration à la presse ici au Nord Kivu avant de s'envoler pour Kinshasa, la capitale, où elle doit rencontrer le président Joseph Kabila ce vendredi. Pour rappel, Nikki Haley mène une visite de 3 jours en RDC, accompagnée d'une délégation d'une trentaine de personnes. Avant de venir à Kinshasa, elle s'est rendue en Éthiopie et au Soudan du Sud. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Deux membres des forces loyales à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar ont été tués et 3 blessés dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Incertitude sur les véritables intentions du président séparatiste catalan, Carles Puigdemont n'annonce pas d'élection anticipée faute de garanties suffisantes du gouvernement espagnol. Abdourahman Dia.
Le chef de l'exécutif catalan avait annoncé l'idée d'une élection anticipée, mais n'a finalement pas franchi le pas. Dans un discours très attendu, Carles Puigdemont a indiqué que c'est le Parlement catalan qui doit décider de la réponse à apporter à la mise sous tutelle de la région. Entre le marteau de Madrid et l'enclume des radicaux indépendantistes, il a donc choisi de jouer les prolongations. En milieu de journée, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Barcelone, exigeant de M. Puigdemont qu'il rompe avec l'Espagne. Certains l'accusent même déjà d'être un traître. Les plus radicaux le pressaient de proclamer l'indépendance immédiate et de créer une république catalane. Le Sénat espagnol entame ce jeudi les discussions pour l'application de l'article 155 de la Constitution qui retire l'autonomie à la Catalogne. Depuis l'organisation du référendum, plusieurs grandes compagnies ont délocalisé ou menacé de quitter la Catalogne.
En Irak, les forces armées ont repris jeudi des bases militaires et des villages au groupe État islamique dans son dernier bastion en Irak, près de la Syrie, lors d'une offensive. De l'autre côté de la frontière, les troupes du régime syrien et leurs supplétifs font mouvement pour prendre en étau les djihadistes. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a reçu jeudi à Téhéran le soutien des autorités iraniennes aux actions entreprises par Bagdad pour défendre l'unité et l'intégrité territoriale de son pays. M. Abadi a rencontré le guide suprême de la République islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, et le président iranien Hassan Rouhani, quelques heures seulement après le lancement d'une opération de l'armée irakienne contre le dernier bastion du groupe État islamique en Irak, et alors que les troupes de Bagdad combattent pour reprendre aux Kurdes des zones disputées dans le nord du pays. Un tribunal turc a ordonné jeudi le maintien en détention du président d'Amnesty International en Turquie, accusé d'appartenir au mouvement du prédicateur Fethullah Gulen qu'Ankara désigne comme le cerveau du push manqué l'an dernier, a indiqué l'ONG. Taner Kilik comparaissait devant un tribunal d'Izmir dans l'ouest du pays au lendemain d'un premier procès à Istanbul dans le cadre duquel il est accusé avec 10 autres militants des droits de l'homme d'activités terroristes. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Multéco qui vous est présentée ce soir par Dili Dito.
Le Togo a alloué près de 298 millions de dollars de crédits budgétaires aux infrastructures en 2016, selon le rapport publié par le consortium pour les infrastructures en Afrique. Cette somme est largement au-dessus des ressources engagées dans le même secteur dans les autres pays de l'UMOA, à l'exception du Sénégal qui consacre plus de 575 millions de dollars aux infrastructures. L'agence Ecofin révèle qu'en Afrique, le Togo est parmi les pays qui ont le plus investi dans le domaine des infrastructures en pourcentage du PIB avec la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Kenya. La Guinée équatoriale a entériné la suppression des visas pour les ressortissants de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, en application de l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation en Afrique centrale. Les ressortissants du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Tchad peuvent désormais entrer sans visa en Guinée équatoriale avec un passeport biométrique et pour un séjour ne dépassant pas 3 mois. Au Gabon, le Fonds monétaire international va débloquer 400 milliards de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre de son plan de relance économique. Selon l'agence Ecofin, cette somme fait partie d'un crédit de 617 milliards de francs CFA accordé au Gabon pour l'exercice 2017. Pour l'instant, seuls 31% des fonds ont été décaissés. Les 400 milliards de francs CFA restants seront débloqués en 2 tranches.
Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Veille des départs pour le 30e tour du Faso.
Et oui, l'épreuve cycliste reine du continent débute demain. Les premiers coups de pédale pour la première étape de 139 km entre Koulbila et Tengodogo pour cette 30e édition qui s'annonce une participation presque record avec 17 équipes et un budget de 380 millions de francs CFA selon l'organisation. Ce sera 10 jours de fête pour les amoureux de la petite reine qui vont se régaler jusqu'au 5 novembre sur les routes du Burkina Faso.
Foot. Aux États-Unis, on connaît l'affiche des demi-finales de conférence.
Et oui, les Red Bulls de New York se sont qualifiés avec panache pour les demi-finales de conférence des playoffs du championnat nord-américain de football en allant s'imposer 4-0 à Chicago en match de barrage, tout comme Vancouver, vainqueur de San José, 5-0. Les New Yorkais affronteront au tour suivant le favori Toronto. Vancouver, troisième de la conférence Ouest, affrontera Seattle. 2 barrages restent à jouer, Atlanta-Columbus et Houston. Kansas City.
Le championnat d'Espagne et la vidéo.
La Liga devrait appliquer l'assistance vidéo à l'arbitrage à partir de la saison prochaine, annonce du président de la fédération espagnole Juan Luis Larrea, ce qui emboîte ainsi le pas à la Serie A italienne et à la Bundesliga allemande. La FIFA, qui observe de près ces expérimentations, doit décider d'introduire ou non l'assistance vidéo lors du Mondial 2018.
Tennis, Venus Williams en demi-finale du Masters.
À 37 ans, l'Américaine s'est hissée en demi-finale du Masters pour la 5e fois de sa carrière en éliminant à Singapour la numéro 2 mondiale, l'Espagnole Garbine Muguruza, le score 7-5-6-4. Il n'y a plus qu'un seul billet disponible dans le groupe blanc puisque la Tchèque Karolina Plíšková était déjà qualifiée malgré sa défaite un peu plus tôt devant la Lettone Yelena Ostapenko en 2-7, 6-3, 6-1.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Victoire de Charlotte sur Denver, 110-93. Défaite de Minnesota face à Détroit, 101-122. Houston qui passe sur le fil Philadelphie, 105-104. Défaite surprise des Cavaliers de Cleveland et LeBron James face à Brooklyn, 107-112. San Antonio qui bat Miami, 117-100. Indiana battu par Oklahoma 96-114. Et puis Memphis qui est battu également par Dallas 94-103. Enfin, la victoire de Phoenix 97-88 devant Utah.
Merci Nicolas. Vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, Lionel Gaïma sur la production. Place à présent au dossier du jour. Et on commence par le Kenya, où la nouvelle élection présidentielle a eu lieu malgré le boycott de l'opposition. Le scrutin a été émaillé de violences qui ont contraint la commission électorale à reporter le vote dans 4 comtés. Pour faire le point, Jacques Aristide a joint Caroline Thompson, la correspondante de la VOA Afrique à Nairobi.
En fait, ces comtés sont dans la région ouest du pays et c'est là où la plupart des personnes sont des Luo, des tribus qui soutiennent l'opposition, M. Odinga. Et c'est eux qui font la plupart des manifestations pour bloquer la livraison des documents de l'élection. Et ce qu'on a appris, c'est que, en fait, la commission électorale dit que le problème, c'est d'essayer d'organiser les élections. Il y a des problèmes de sécurité.
Que pouvez-vous nous dire à propos des violences qui ont éclaté ailleurs dans le pays?
Même si le président a demandé au peuple de voter en paix, il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette élection est une farce. Il y a beaucoup de manifestants qui disent qu'ils ne s'arrêteront pas avant qu'il y ait une élection qui est libre. Alors déjà, il y a eu beaucoup de manifestations qui sont passées dans les régions qui soutiennent l'opposition. On a entendu qu'il y a déjà au moins un mort et plusieurs personnes qui ont été blessées entre les manifestants et les policiers.
Quelle est la situation maintenant après la fermeture des bureaux de vote?
Oui, alors il y avait des personnes qui pensaient peut-être que la situation améliorait, mais en fait, pour le moment, il y a encore beaucoup de manifestations et des problèmes entre les manifestants et les policiers. À Kibera, par exemple, qui est le bidonville le plus grand du Kenya, les manifestants continuent à lancer des roches, des bouteilles en verre envers les policiers. Et les policiers envoient, par exemple, des gaz lacrymogènes pour essayer de les envoyer, de les faire disperser.
Raila Odinga, qui a retiré sa candidature, a appelé ses partisans à ne pas aller voter, alors que le président Kenyatta, lui, a demandé aux électeurs de participer massivement au scrutin. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la participation?
On a visité plusieurs endroits de vote, mais il y avait très peu de personnes, même aux stations de vote dans les régions qui soutiennent le président. Alors, on a vu, par exemple, l'élection en août, il y avait des personnes qui ont fait la queue pendant des heures. Ils se sont levés très tôt le matin pour pouvoir voter. Cette fois, il n'y avait même pas de queue. Il y avait des gens qui entraient et sortaient dans quelques minutes. Mais on a entendu, il y a des rumeurs que les gens ont peur que s'ils vont voter, ils vont être notés avec quelque chose sur la main. Ils ont peur que ça va dire aux manifestants qu'eux, ils soutiennent le président et ils pourraient être des victimes des attaques.
Pour des observateurs, le président qui sortira des urnes n'aura aucune légitimité et le pays restera très divisé. Le Kenya pourrait-il se diriger vers un troisième scrutin?
Pour le moment, on ne sait vraiment pas comment la situation peut se régler. C'est possible que l'élection sera encore contestée au Cour suprême, mais pour le moment, il semble que M. Odinga préfère des autres manières de contester ces élections. Alors, par exemple, par des boycotts. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent déjà qu'ils ne vont pas accepter ces résultats et qu'ils sont prêts à lutter pour une élection qu'ils considèrent acceptable.
Caroline Thompson, correspondante de la VOA Nairobi.
Et Kabadou, avec vous, dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation en République centrafricaine. Depuis 2013, plusieurs groupes armés sèment la désolation dans le pays, malgré la présence de plus de 10 000 casques bleus. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite en RCA. Faut-il envoyer plus de casques bleus? Comment sortir de cette crise? Comment rétablir la paix dans le pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
La crise politique qui secoue le Togo depuis 2 mois et qui a fait au moins 16 morts a suscité des appels au dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Washington, Paris et la CEDEAO, à travers le président Alassane Ouattara, demandent l'ouverture des discussions. Comment Lomé accueille ces appels? Yacouba Ouédraogo a joint Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative.
Le président de la République togolaise et le gouvernement ont été les premiers à exhorter la classe politique togolaise à faire preuve d'ouverture pour privilégier un débat et un dialogue républicain. Et donc nous nous réjouissons que des exhortations et des encouragements viennent également des pays frères et voisins et nous espérons que cela va contribuer à faire entendre raison à ceux qui, jusqu'à présent, étaient beaucoup plus dans une démarche insurrectionnelle.
Le gouvernement a adopté un projet de modification constitutionnelle, un projet qu'il veut soumettre au référendum. Quel est le contenu de ce projet-là?
Le premier point, c'est l'article 52 de la Constitution qui viserait à limiter les mandats électifs, notamment les mandats des députés et des sénateurs, ainsi que l'article 59 qui concerne la limitation du nombre de mandats présidentiels, et l'article 60, le troisième point, qui concerne le mode de scrutin à l'élection présidentielle, donc faire en sorte que le président de la République soit élu au scrutin majoritaire à deux tours.
L'opposition rejette bien sûr ce projet parce qu'elle estime que ce projet consacre la non-rétroactivité et donc cela permettrait au président Faure Yassingbé au pouvoir depuis 2005 de se représenter encore.
Pour éviter de s'engager dans des débats sémantiques, philosophiques ou dans du juridisme. Une loi ne produit des effets que par rapport à des situations et à des faits qui surviennent après qu'elle ait été adoptée.
Le référendum, il reste d'actualité.
La question n'est pas de savoir si le référendum reste d'actualité ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, les préparatifs sont en cours et nous espérons que les esprits vont s'apaiser et que nous allons travailler ensemble pour parvenir à une révision de la Constitution dans le sens de la consolidation et du renforcement de la démocratie.
L'opposition entend manifester la semaine prochaine, malgré l'interdiction de manifester les jours ouvrables. Que lui répondez-vous?
Il serait souhaitable que les esprits s'apaisent et que nous puissions remettre balle à terre, que nous puissions examiner les dégâts qui ont été causés en termes notamment de pertes en vie humaine, de destruction, et que nous puissions œuvrer ensemble pour préserver la liberté de manifestation sans qu'il y ait des débordements et sans qu'il y ait des violences gratuites.
La plupart des appels au dialogue estiment qu'il ne faut pas poser de préalable avant d'y aller. Est-ce que vous fonctionnez dans cette logique-là?
Bien entendu. En revanche, il est important aussi de souligner qu'un dialogue politique, un débat républicain ne peut être fécond que si au préalable, nous créons les conditions de sérénité et de calme. Et si les esprits s'apaisent.
Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, depuis Lomé, nous aurons la réaction de l'opposition dans nos éditions du matin.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, le décès d'une jeune fille de 12 ans à l'hôpital de Pikine, banlieue de Dakar, pour négligence médicale présumée agite l'opinion publique et remet au goût du jour la situation des patients dans les structures sanitaires de services publics. Après la panne de la machine de radiothérapie qui oblige les malades du cancer à se faire soigner au Maroc, la mort de Aïcha Diallo dans des conditions font polémique révèle le mal de la santé publique au Sénégal.
Au lendemain de cet événement malheureux, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé d'éventuelles sanctions, mais il a surtout reconnu qu'il y avait un problème dans les hôpitaux sénégalais.
Pour ce cas de figure-là, une enquête est en cours. Nous ne préjugeons de rien a priori. Pour déterminer effectivement des responsabilités s'il y a lieu. Et à partir des résultats de l'enquête, nous allons effectivement prendre les dispositions qu'il faut prendre, et quelles que soient ces dispositions. Dans un système où il y a d'excellents professionnels, mais dans ce système-là aussi, il faut tous les jours se battre pour sortir ceux qui n'ont pas la conscience de servir la santé du pays.
Mbalo Diakam, secrétaire général du CHUTSA, c'est le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, affirme que les manquements sont nombreux dans les hôpitaux.
Des fois, les collègues passent plus de 24 heures dans les structures, alors que 12 heures, c'est la limite normale. Un déficit de personnel, et un déficit de spécialistes. Les structures, disons, qui sont chargées d'accueillir ces urgences, sont presque toutes dépassées, parce que la capacité d'urgence était réduite. Les urgences, on les compte, ils sont peu nombreux, et souvent aussi, les intrants posent problème.
Dénonce un manque criant d'organisation dans les structures sanitaires. Mohamed Cissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal.
On vigile même, vu la proximité qu'il a avec le personnel médical, arrive même à occuper un poste où il ne devait pas l'être. On a constaté des vigiles qui remplissent des fiches. Cette personne-là ne peut pas remplir le rôle de l'infirmier. Cette personne-là n'est pas formée pour orienter pleinement, avec exactitude, le patient dans tel ou tel département ou la pathologie.
Mohamed Cissé évoque également le problème de la formation et de l'encadrement du personnel sanitaire.
Vous savez, il y a beaucoup d'écoles privées qui puent. Et ces stagiaires-là, si vous tombez dessus, c'est des gens qui doivent être encadrés. Un stagiaire ne doit pas pleinement remplir une fiche.
Maloja Diam, secrétaire général du SUPSAS, estime que la qualité de la formation doit être une priorité pour les autorités afin d'éradiquer les manquements qui gangrènent le secteur de la santé.
Si on doit interroger la formation, évidemment, elle a été libéralisée. Il faut d'abord une réelle inspection des écoles pour voir si ces écoles-là, dans le cadre de la formation, sont en train de se conformer à leur cahier de charge. En tout cas, nous invitons le gouvernement à faire de l'inspection des écoles, surtout paramédicales.
Malgré plusieurs programmes de prise en charge des malades, notamment les enfants et les personnes âgées, le secteur de la santé publique demeure dans des problèmes d'ordre structurel qui affectent son bon fonctionnement. Le renforcement des établissements sanitaires en ressources humaines et matériels de qualité semble ainsi être vital. Seydina Abagé, à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le film Saba a été projeté hier mercredi ici à Washington, à l'Institut de paix du gouvernement américain. Un film documentaire qui traite de la question de collaboration entre forces de sécurité et des membres de la communauté de Saba, une commune dans la banlieue de Ouagadougou au Burkina Faso. Le compte-rendu de Bagassi Koura.
Avec les Kogloiro, nous au tout début on a vu des Kogloiro qui ont tué des gens à Saba ici, mais frappé jusqu'à tuer.
La salle était bondée lors de la projection de ce film. Saba, une série documentaire qui retrace la vie des résidents de la bourgade du Sahel du même nom, en proie à des problèmes de sécurité.
Nous avons vu qu'en fait, il existe des groupes d'autodéfense ainsi que la population et l'administration qui ont du mal à collaborer.
Sandrine Nama est la représentante au Burkina de l'Institut américain pour la paix.
C'est dans ce sens que le DHD a travaillé à les amener ensemble autour d'une table.
La commune de Saba, composée de 26 villages, a plus de 80 000 habitants, mais la gendarmerie n'a que 10 agents et la police 20. Ils ont peu de moyens et avaient de sérieux problèmes de crédibilité aux yeux d'une bonne partie de la population. Philippe Leroux-Martin est le directeur en charge des questions de sécurité et des droits de l'homme à l'USIP.
Le projet qu'on pilote vise à renforcer le lien de confiance entre les citoyens ou les résidents d'une communauté et les services de sécurité.
L'USIP a donc mis en place un projet pour encourager le dialogue entre la gendarmerie, la police, les habitants et les membres des groupes d'autodéfense des Kogloiro à Saba. Idrissa Barry est le coordonnateur du projet.
Peut-être que ça ne sort pas dans les films, mais la première activité, la première réunion que nous voulions organiser en fait entre les différents acteurs, les deux parties ont décidé de s'asseoir ensemble. C'est-à-dire, même pour avoir l'autorisation de faire la rencontre, le préfet, madame le préfet qui était à l'époque à Saba, a dit non, ce sont des groupes hors la loi, elle ne peut pas autoriser que la police ou la gendarmerie puisse s'asseoir avec eux.
Après plusieurs mois d'efforts pour amener les différents groupes à se comprendre, la confiance s'est instaurée entre les forces de sécurité et les membres de la communauté de Saba. Sandrine Nama, représentante au Burkina de l'USIP, l'Institut pour la paix.
C'est justement les Kogloiro qui ont demandé à ce que les FDS soient renforcés. Et ça, pour moi, c'est un grand signe de succès.
Avec ce succès relatif, Philippe Leroux-Martin espère que ce film qui retrace l'évolution de la situation à Saba servira à inspirer les autres communautés confrontées à des problèmes de sécurité.
L'intérêt, c'est d'utiliser le film que vous venez de voir aujourd'hui pour pouvoir approcher d'autres communautés où les relations sont peut-être tendues.
Dans les semaines à venir, les habitants de Saba pourront voir le film qui retrace le chemin qu'ils ont déjà parcouru pour élever le défi de la sécurité.
C'est la fin du monde aujourd'hui. Mise à nom de par Lionel Gaïma, Adrius Regus était à la console. Présentation John Lyndon. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Juste derrière moi, retrouvez Ekia Badou dans le cadre de Washington Forum. Bonsoir.